C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix. Je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 25 octobre et aujourd'hui, émission spéciale Fête de la Science. Nous étions avec Simon au campus 2 le 14 octobre pour rencontrer les différents acteurs du village de la science. Intervenants, professeurs et écoliers, nous avons pu discuter avec eux pour en apprendre plus sur la relation entre la science et le public. Mais avant, c'est l'heure du flash avec les infos sciences de la semaine. Une baisse de 28% du nombre de filles dans les enseignements scientifiques dans les lycées. C'est ce que pointe du doigt une étude début octobre sur la réforme de l'orientation et de l'apprentissage dans les lycées en vigueur depuis 2019. Un retour en arrière de 20 ans de lutte contre les inégalités filles-garçons, selon le collectif Maths Sciences qui dirige ses recherches. 94 000 filles avaient un profil scientifique avant les réformes, il n'y en a aujourd'hui à peine que 65 000, soit une baisse de 28% par rapport à 2019. Les élèves au milieu de l'année de seconde doivent choisir 3 spécialités différentes parmi 12 proposées, donc 5 dans des domaines scientifiques. Mathématiques, physique chimie, sciences de l'ingénieur, SVT et sciences de l'informatique. Mais ce choix de spécialité à la carte aboutit à des cursus qui sont influencés par les stéréotypes de la société. Le milieu de l'informatique, par exemple, est très masculin. De même, les chiffres du nombre de filles en mathématiques est inquiétant. En 2019, en terminale, 94 000 filles suivaient au moins 6 heures de cours de maths. En 2021, c'est 36 000, soit une baisse de 61%. Ce manque d'heures de cours en maths peut compromettre gravement la suite de leurs études en économie, en biologie, en santé. Ajoutez à cela un manque de figures, de modèles pour les jeunes étudiantes dans les domaines scientifiques, les filles s'écartent de ces cursus et creusent une grande disparité entre les hommes et les femmes dans la science. La Terre a-t-elle déjà été visitée par des petits hommes verts? C'est en tout cas la question que se pose la NASA. L'agence spatiale américaine a dévoilé vendredi une équipe de chercheurs, 16 spécialistes dans différents domaines, qui vont enquêter sur les ovnis. Les recherches ont commencé ce lundi 23 octobre et les résultats devraient arriver vers la mi-2023. Pas trop tard, on espère, pour qu'on puisse en parler dans cette émission, c'est pas faux. Parmi les chercheurs, des professeurs d'université, des astronautes, des journalistes scientifiques, pour analyser 144 observations non expliquées entre 2004 et 2021. La NASA prend très au sérieux ses recherches. Plus qu'une recherche de la vérité derrière ces mystérieux objets, c'est une question de sécurité que se pose la NASA. Il est nécessaire de savoir ce qui se cache derrière ces ovnis pour savoir s'il existe des failles de sécurité dans le ciel. Les chercheurs n'auront sûrement pas accès aux secrets du militaire, mais ils espèrent comprendre ces phénomènes. La probabilité d'apprendre que des extraterrestres sont juste venus nous dire bonjour est très faible. Ces ovnis sont peut-être tout simplement des phénomènes que la science n'arrive pas encore, pour un certain temps, à expliquer. Continuons de regarder vers le ciel, vers les étoiles, avec un traité d'astronomie qui date de 2200 ans. Les chercheurs français ont découvert un document d'astronomie antique appartenant à Hipparque. L'astronome grec avait pourtant effacé ses recherches sur ce manuscrit, mais grâce à l'imagerie médicale, qui ne sert donc pas qu'à la santé, le groupe de chercheurs a réussi à reconstituer le document. Il s'agit d'un catalogue d'étoiles et c'est la plus ancienne tentative humaine de mesurer la position des étoiles dans le ciel. 2 pages d'astronomie retrouvées dans un manuscrit chrétien datant du Moyen-Âge, conservé au monastère Sainte-Catherine au Sinaï en Égypte. Alors vous allez me dire, pourquoi y a-t-il des recherches d'astronomie dans un manuscrit chrétien? Eh bien parce que ces recherches ont été effacées et on a réécrit de par-dessus. Les pages ont été recyclées pour pouvoir réécrire dessus comme un nouveau support, on appelle ça des palimpsestes. Alors comment fait-on pour retrouver des textes qui ont été effacés? Les chercheurs ont pris des photos de ces textes dans différentes longueurs d'onde, la technique d'imagerie multispectrale, et ont recombiné ces photos grâce à l'informatique, et voilà que des traces d'encre effacées peuvent être redécouvertes. En plus de retrouver des écrits scientifiques antiques, les résultats sont impressionnants. Les résultats trouvés par Hipparque concernant la position des étoiles sont juste au degré près, plus juste même que des mesures faites des siècles plus tard. Cette technique d'imagerie médicale pourrait permettre de retrouver ces fameux palimpsestes et décrypter ces parchemins recyclés remplis d'histoire. Santé maintenant, si vous dormez moins de 5 heures à partir de 50 ans, cela pourrait avoir de sérieuses conséquences sur votre santé. Pour les amoureux de la grasse mat, rien ne change, mais un manque de sommeil pour les quinquagénaires peut augmenter le risque de maladies chroniques. C'est le constat de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, dans une étude qui vient de paraître. Un sommeil très court la nuit pourrait augmenter de 20% le risque de développer une première maladie chronique et entre 20 et 40% de développer plusieurs maladies chroniques en même temps, qu'on appelle la multimorbidité. Le sommeil est indispensable au bon fonctionnement de notre système immunitaire, de notre santé, récupération physique, restauration d'énergie, sécrétion d'hormones et élimination de toxines de notre organisme. Bien dormir est aussi important que de bien manger. Pourtant, en à peine 50 ans, les adultes français ont perdu entre 1 heure et 1 heure et demie de sommeil à cause du bruit et de l'utilisation d'écran le soir.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Le 14 octobre dernier, à l'occasion de la fête de la science, le campus 2 de l'université de Caen accueillait les scolaires au village des sciences, un événement qui se veut comme une opportunité de découvrir les activités menées dans les laboratoires, d'échanger avec les chercheurs et de discuter de l'actualité de la recherche.
Avec Simon, nous nous y sommes rendus, l'occasion pour nous d'échanger avec les différents acteurs de cette journée, élèves, professeurs de collège et lycée ou encore chercheurs. Nous vous proposons d'ailleurs d'écouter l'entretien réalisé avec deux des organisateurs de l'événement, Jean-Marc Rotour et Pauline Landel.
On est en ce moment même à la fête de la science avec Jean-Marc Rotour et Pauline Landel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez décrire vos rôles un peu au sein de la fête de la science ? Pour commencer.
Nous sommes tous les deux copilotes, on va dire, de l'organisation du Village des Sciences 2022. Moi, j'ai été recrutée il y a 5 mois maintenant à l'université de Caen-Normandie pour coordonner toutes les actions de médiation scientifique.
Et moi, je suis professeur d'université, enseignant-chercheur, et ça fait 25 ans que je suis à l'université de Caen, donc voilà, et j'ai coordonné avec Pauline toute l'organisation, l'accueil des scolaires, les stands, la logistique, un petit peu de com. Voilà.
Et pour les personnes qui nous écoutent, concrètement, quel est le but de ce genre d'événement ? Pourquoi organiser une fête de la science ? Et pourquoi ici, particulièrement à l'université de Caen ?
C'est un événement national, la fête de la science, hein, qui est donc au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ensuite, ça se décline en région par un certain nombre d'opérations qui peuvent être des conférences dans des bibliothèques, des vrais faux flous organisés par le Dôme et des grosses opérations qui s'appellent des villages des sciences. Qui vont regrouper, par exemple ici à Caen, une trentaine d'opérations, donc avec des ateliers, quelques conférences également.
Pour compléter, la fête de la science et le village des sciences, c'est une opportunité pour les laboratoires, les chercheuses et les chercheurs de pouvoir présenter leurs recherches à un public qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de croiser au quotidien dans leur métier et de faire découvrir les actualités de la recherche, ce que c'est que la démarche scientifique et là en particulier après 2 ans de confinement où on ne s'est pas trop rencontrés et on a pourtant beaucoup parlé de science, ça a beaucoup de sens de faire ça au sein d'une université.
Voilà, et je continue. Le pourquoi ? Le pourquoi, c'est vrai que pendant 2 années, là, on a vu des experts passer sur des plateaux télé et exprimer des opinions qui n'étaient pas forcément basées sur un cheminement scientifique. Et je pense que c'est très important que les gens reviennent rencontrer des chercheurs pour pouvoir dialoguer avec eux et se faire une opinion. Au travers de ce dialogue, quoi. C'est vraiment remettre du lien entre la science et la société au travers du village des sciences, quoi. Et ça se fait à l'université parce que l'université est quand même le lieu de recherche académique
et
de diffusion du savoir. Voilà.
Et surtout en présentiel, ça permet d'avoir un retour direct, un contact direct avec les enseignants.
Oui, c'est ça. Oui, c'est extraordinaire de voir les collègues enseignants-chercheurs se transformer en médiateurs au moment du village et chercher à discuter, dialoguer, expliquer, utiliser des mots simples. C'est une métamorphose des fois.
Oui, et j'imagine que ça doit être aussi un intérêt, une richesse pour les enseignants-chercheurs d'avoir aussi cette facette-là dans leur métier, quoi, dans leur quotidien.
Vous parlez de médiation, justement, il y a donc un public particulier. Est-ce que c'est le même sur... parce que c'est sur plusieurs journées, hein, c'est ça l'événement. Donc déjà, est-ce que l'organisation est différente en fonction des journées ? Est-ce que le public qui vient est différent en fonction de la journée ? Comment ça s'organise concrètement là-dessus ?
Alors il y a effectivement une première journée, donc aujourd'hui, le vendredi, qui est totalement consacrée au public scolaire. Et donc on accueille près de 600 élèves aujourd'hui. De classe de Caen, mais pas seulement.
On a Thierry Harcourt là, qui était là, Argentan aussi, donc ils sont levés de bonne heure pour venir sur le village.
Voilà, et donc ça c'est vraiment une journée spéciale avec une ambiance, on est très content de recevoir tous ces jeunes. Et puis samedi et dimanche, c'est grand public, donc ouvert à tous, c'est gratuit, comme tous les événements de la fête de la science. Et voilà, et cette année, on a en particulier essayé de rendre ce village un petit peu festif, un peu, voilà, après donc 2 ans de confinement, comme on le disait. Et on a par exemple dimanche un concert en clôture du village des sciences qui mettra en scène des agronomes musiciens qui font de la musique à partir de la conductivité électrique naturelle des plantes. Voilà.
C'est aussi une façon de vulgariser ce genre d'événement, de rendre la science plus accessible avec des choses qui peut-être parlent à un plus grand nombre de personnes, là où on imagine plus la science comme quelque chose de très abstrait et parfois difficile, voire impossible à comprendre.
Oui, absolument. C'est en tout cas tout à fait notre souhait de montrer aussi les différentes applications de la science et ses différents liens à la société aussi à travers l'art, en fait. Il y a des musiciens, des artistes qui mobilisent les acquis scientifiques pour inventer des nouvelles façons de créer, et c'est aussi une façon de donner accès à la science à des publics qui connaissent pas forcément ces liens-là, quoi.
Et donc oui, pour compléter, bah, par exemple, nos collègues physiciens, ils vont utiliser des billes pour pouvoir expliquer les attractions entre les particules et les atomes. Donc voilà, ils ont un dispositif où on voit des billes colorées. Donc il n'y a aucune équation. Pareil pour les mathématiciens. Dans l'imaginaire, les maths, c'est forcément des équations dans tous les sens sur un tableau. Et là, les collègues mathématiciens, ils ont des objets de couleurs, des triangles, des carrés qu'il faut agencer. Donc il y a beaucoup de manipulation et aucune équation. Donc c'est montrer qu'on peut expliquer des choses sans passer par des choses rébarbatives.
On a vu aussi, on a parlé d'enseignants-chercheurs, mais on a aussi vu des étudiants sur les stands proposer leur propre stand, leur propre recherche. Ça permet de s'éduquer eux-mêmes et même d'apprendre à transmettre à un public, notamment aujourd'hui pour les plus jeunes.
Il y a deux types d'étudiants qui sont présents ici sur le campus. Donc on a effectivement la Corposcience, qui est une association étudiante qui tous les ans, depuis de nombreuses années, propose un atelier. Donc là, ils font visiter le campus, ils font visiter des salles de TP, et ils ont été chercher des manipulations de salles de TP pour pouvoir les montrer au public. Donc ça, c'est cette première gamme d'étudiants, on va dire. Et on a d'autres étudiants des étudiants de certains de mes cours que j'ai impliqués dans l'organisation. Voilà, donc on a une quarantaine d'étudiants. Aujourd'hui, ils ont accueilli les classes. Demain, ils seront à l'accueil ici. Il y en a quelques-uns qui vont tweeter. Il y en a qui vont gérer les conférences, par exemple. Ça fait 3 séances de TD qu'on travaille l'événement, qu'on répartit les rôles, etc., qu'on donne les plannings. Ils ont été obligés de se structurer pour dire « moi, je vais faire telle tranche horaire ».
Oui, et pour compléter, ce que ta question évoque aussi, c'est peut-être la nouveauté et la nécessité aujourd'hui de former les étudiants, les doctorants, les jeunes chercheurs à communiquer, à diffuser leurs savoirs qui sont souvent très spécifiques, très techniques. Et c'est normal parce que plus on avance dans la recherche, plus on se spécialise. Mais ça devient aussi une compétence importante et voire, on espère, amusante et sympathique que de aussi savoir parler de ses recherches très pointues à des publics non spécialistes. Et donc la présence des étudiants sur le village des sciences, c'est ça aussi, ça fait partie de cet
enjeu-là. Oui,
cet enjeu-là, voilà. Et qui s'exprime d'ailleurs aussi dans, par la présence au sein du village des sciences d'un stand sur les recherches participatives, qui est un des programmes que l'université souhaite développer aujourd'hui. Les sciences participatives, ce sont des sciences qui se construisent avec et pour la société. Ce lien à la société, qui est très important, se matérialise aussi au sein du village des sciences par la présence d'un stand autour des recherches participatives. Les recherches participatives, ce sont tous les programmes de recherche que l'université souhaite développer aujourd'hui avec et pour la société. Et c'est un programme fort de l'université de Caen qui aujourd'hui met l'accent sur ce type de programme-là pour aussi réaffermir le lien avec la société et la pertinence des recherches menées.
Chaque année, la fête de la science, au niveau national, il y a toujours une thématique précise. Cette année, évidemment, on est plus autour de l'écologie et de l'urgence climatique. comment est-ce que l'événement à Caen intègre cette thématique nationale? Est-ce qu'il y a des ateliers qui sont plus mis en avant que d'autres, par exemple?
Alors, le principe de la fête de la science, c'est qu'il y a un appel à projet vers les équipes de recherche et vers les structures de médiation scientifique, les associations et les entreprises. Et c'est elles, et c'est en fonction de leurs réponses qu'on va intégrer ou pas, ça va s'intégrer ou pas dans la thématique nationale. Donc aujourd'hui, par exemple sur le village des sciences, on doit avoir 5 opérations en lien avec le changement climatique. Voilà. Donc y a par exemple les chimistes, enfin les collègues chimistes qui proposent un stand sur justement le rôle de la chimie dans la lutte contre le changement climatique. On a une conférence, on a le CPIE qui est là, qui est une association qui travaille sur le vivant. Voilà, et on a l'IFREMER également qui a quelque chose sur les plastiques dans les océans. Voilà. Mais nous, en tant que coordinateurs, on ne peut pas influencer sur l'appel à projet. Voilà. Les collègues physiciens qui font de la physique, qui n'a finalement pas de lien direct avec le changement climatique, bien que, n'ont pas forcément proposé quelque chose en rapport avec le thème. Je suis pas sûr d'avoir été très très clair. Mais
Le changement climatique, c'est la thématique proposée au niveau national, mais voilà, c'est une proposition dans le cadre de laquelle certains porteurs de projets ont formulé leur animation de cette année, mais on a aussi, comme toutes les années passées, tous les collègues et équipes qui viennent, qui ont le désir de présenter leurs recherches plus largement que cette thématique-là. Et puis il y a aussi toutes les équipes qui ont développé des supports de médiation scientifique qu'ils utilisent chaque année, qu'ils développent chaque année, comme des jeux, des manipulations, etc. Et ça, c'est toujours intéressant. Enfin, c'est un petit peu intemporel, ça revient chaque année, parce que chaque année, il y a des classes qui ont intérêt à redécouvrir tout ça, quoi.
Est-ce qu'il ne faut pas faire un peu un tri en fonction des propositions? Aujourd'hui, le thème, c'est l'écologie. Est-ce qu'on met de côté parfois un peu certains thèmes? Ou alors non, on essaye d'intégrer le plus de personnes, le plus de cendres?
Alors cette année, il n'y a pas de tri. Voilà, clairement, c'est des fois un petit peu compliqué de mobiliser les collègues sur ces activités de médiation scientifique. Donc au niveau des comités, il n'y a absolument pas de tri. Pour l'année prochaine, on aimerait bien mettre en place non pas une sélection, mais un accompagnement lorsque les propositions sont un peu trop scientifiques et pas suffisamment vulgarisées. Voilà, on aimerait vraiment, c'est un peu mon idée, mais vraiment réussir à faire sentir aux collègues que l'enjeu, c'est la vulgarisation. Voilà.
Oui, l'idée, c'est effectivement de pas mettre en place une sélection, c'est pas de ça dont il s'agit, mais de collectivement s'embarquer tous dans l'amélioration, on va dire, de la médiation scientifique, puisqu'on partage tous le même objectif, qui est de mieux parler aux scolaires et au grand public. Et donc il se trouve que voilà, Jean-Marc et moi, on a été mobilisés par l'université pour faire ça. Donc on a envie de le proposer mieux aux équipes l'année prochaine, quoi.
Est-ce que ça nécessiterait un peu une formation pour mieux savoir transmettre l'information, là où parfois certains ont du mal à expliquer concrètement quelle est leur recherche?
Absolument, absolument. Oui. La médiation scientifique, ça nécessite une formation.
Ça s'apprend.
Ça s'apprend. Et d'autant plus que ce n'est pas un manque de compétences, mais c'est simplement que quand on est chercheur, j'ai moi-même été chercheur dans ma vie, et on développe un sillon de recherche hyper spécialisé. C'est ce qui fait la qualité de notre travail. Mais dézoomer par rapport à cette pratique-là et s'autoriser parfois l'usage de mots plus vulgarisés, plus grand public, c'est pas simple, en fait. Et discuter avec des médiateurs scientifiques comme Jean-Marc et moi, ça peut aider tout simplement à retrouver un autre langage plus accessible. Ça peut être fait de manière en plus ludique et sympathique. Mais effectivement, ça, c'est très difficile à faire tout seul. Donc voilà, c'est pour ça que Jean-Marc et moi, on est là pour aider à accompagner ça.
Et c'est un vrai cheminement. C'est-à-dire moi, en tant qu'enseignant-chercheur, au début de carrière, voilà, j'étais dans mon laboratoire de recherche, dans mon réseau, dans mes réflexes. Ensuite, on devient enseignant. Et là, pareil, l'enseignement, ça demande de la formation. Parce que quand on fait une thèse, on ne sait pas forcément très bien comment se comporter avec les étudiants. Et derrière, voilà, partir sur cette posture de médiateur scientifique, c'est encore un cheminement supplémentaire parce que il faut quitter son rôle de sachant pour être plus sur un rôle de partage de la connaissance, voire la médiatiser. Donc moi personnellement, j'aime beaucoup la culture pop, l'homme qui valait 3 milliards, MacGyver, etc. Et je trouve que c'est des relais intéressants pour faire médiation scientifique.
Et j'ajouterais, c'est un cheminement collectif. C'est-à-dire que peut-être que de la même façon que la qualité du travail scientifique s'évalue par les pairs et en collectif, eh ben, la nécessité dans la médiation scientifique de trouver le juste équilibre entre la robustesse de son propos et l'accessibilité pour les publics, bah, c'est un travail qui se fait en collectif avec des médiateurs, en discutant pour trouver ce juste équilibre. Et c'est quelque chose qui est à construire et qu'on
c'est
a
ça.
Voilà qu'on
c'est ça. On se propose. Il y a encore beaucoup de choses. C'est un champ à labourer là. Enfin, on a beaucoup de choses à.
Passionnant d'ailleurs.
Et c'est passionnant, tout à fait.
Merci beaucoup Jean-Marc Redour et Pauline Landel. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Au revoir.
Bon village des sciences.
Merci encore à Jean-Marc Redour et Pauline Landel pour leur disponibilité. On continue de parler du village des sciences dans C'est pas faux. Mais avant, on va faire une petite pause musicale et écouter Hate Wave de Pereira Elsewhere. A tout de suite sur Radio Phoenix. Stop trying to compete. Keep wanting all the things that make my heart beat. Just a normal love, let me sleep. Take off where I lift off without losing all my feet. Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor. Trying to get this life together since this must be torn. Jigsaw, jigsaw, always wanted more. Just too many pieces to fit in this jigsaw. Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor. Trying to get this life together since this must be torn. Jigsaw, jigsaw, always wanted more. Just too many pieces to fit in this jigsaw. Jigsaw, jigsaw. Stop sending me, just try to complete. Keep wanting all the things that make my heart beat. Just to know all my love, let me miss a beat. Take off where I left off without losing all my feet. Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor. Trying to get this life together since this must be torn. Jigsaw, jigsaw, always wanting more. Just too many pieces to fit in this jigsaw. Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor. Trying to get this life together since this must be torn. Jigsaw, jigsaw, always wanted more. Just too many pieces to fit in this jigsaw.
C'était Heatwave de Pereira Elsewhere. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas faux sur Radio Phoenix. Aujourd'hui, émission spéciale, retour sur le village des sciences qui a lieu entre le 14, 15 et 16 octobre.
Le village des sciences, c'est l'occasion pour de nombreux chercheurs de faire connaître leurs travaux et leurs domaines de recherche auprès des jeunes publics scolaires.
C'est le cas notamment du GREC, le laboratoire de recherche en sciences du numérique, qui est tenu à un stand. On vous propose d'écouter Emmanuel Guiguet, membre de ce laboratoire.
Je suis Emmanuel Guiguet, donc je suis chercheur au laboratoire GREC. Et le laboratoire GREC, c'est un laboratoire d'informatique et d'électronique qui est hébergé à la fois à l'Université de Caen, à l'École d'ingénieurs et au CNRS. Et donc sur notre stand, en fait, on va présenter au public de nombreuses démonstrations interactives. Ce sera destiné à la fois aux jeunes, aux moyens jeunes et aux plus anciens, puisque tout est à portée de main. L'idée, c'est de faire comprendre au public, de les sensibiliser à la fois à la cybersécurité. C'est une des grandes dimensions qui intéresse pas mal de jeunes avec des expériences sur la reconnaissance faciale, sur les empreintes digitales, pour voir comment est-ce que l'on peut utiliser la biométrie pour s'enregistrer. On va aussi avoir des expériences plus sur la rééducation médicale, donc dans un tout autre domaine. Et puis des gens qui travaillent aussi sur les robots, par exemple, et donc voir comment est-ce que l'on peut manipuler un robot à l'aide d'un ordinateur.
Alors ce vendredi, c'est la journée spécialement pour les étudiants, pour les jeunes. Est-ce que vous les sentez intéressés par vos projets ?
On a créé des démonstrations qui sont spécialement faites pour les jeunes et avec un côté ludique qui nous sert à leur faire passer quand même un petit peu d'informations scientifiques. Et oui, on voit des rires, on voit des intérêts. Les jeunes sont vraiment, vraiment concentrés, ont envie de tester et de s'investir sur les démonstrations. C'est très, très sympa et à la fois pour nous et de transmettre un message.
On a parlé avec plusieurs jeunes précédemment. C'est vrai que c'est une nouvelle forme d'apprentissage. Vous avez vraiment conscience que ce genre d'événement, ça permet d'apprendre différemment qu'à l'école ?
Ah mais complètement. Bah déjà, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout le cadre scolaire avec un professeur officiel, même si nous sommes pour la plupart enseignants. Eh bien, en fait, les techniques de vulgarisation, de médiation scientifique, c'est quand même des techniques tout à fait particulières. Et le cadre, justement, ils sont un petit peu en semi-liberté ici. En fait, ils ont envie de s'investir et puis de rentrer dans les démonstrations. Et du coup, nous, on profite de ça en leur faisant passer quelques petites notions scientifiques. Et puis, on essaye aussi de les orienter pour leurs études, de les inciter à aller vers la recherche, parce qu'on a besoin d'étudiants qui viennent vers la recherche, aussi bien des hommes que des femmes, notamment dans les carrières scientifiques.
Parce que votre but, votre présence ici, c'est avant tout pour promouvoir des vocations ?
C'est double, effectivement, à la fois promouvoir des vocations, donc en essayant d'orienter, de sensibiliser, d'orienter, de créer un intérêt, mais c'est également aussi de faire un lien avec la société. C'est quand même le grand rôle de la médiation, c'est de faire comprendre comment est-ce que, notamment le CNRS, en école d'ingénieur ou à l'université, comment est-ce que l'on essaye, par nos travaux de recherche, qui peuvent sembler très lointains pour le grand public, de comprendre qu'il va y avoir un vrai impact sur la vie des gens, par exemple en matière de sécurité informatique. On voit bien aujourd'hui comment est-ce qu'un simple particulier peut se faire prendre un mot de passe pour aller sur son compte en banque et se faire détourner des choses. Donc, du coup, c'est vraiment aussi un moyen de montrer qu'au CNRS et dans des établissements universitaires, on n'est pas des chercheurs déconnectés du monde. On essaye d'avoir un vrai impact sur la société.
Parce que c'est vrai que la cybersécurité, tout ça, c'est des choses qui paraissent vraiment très complexes. Est-ce que c'est facile d'expliquer à des jeunes, des enfants, qu'au final, en fait, ça peut être accessible à tout le monde ?
Oui, complètement. En fait, on a vraiment des démonstrations qui sont vraiment très 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 parlantes, avec des choses qui manipulent tous les jours. Par exemple, comment est-ce que l'on peut débloquer un téléphone avec la reconnaissance faciale, comment ça fonctionne, comment est-ce que l'on peut, avec une empreinte digitale, débloquer aussi également un téléphone. On leur montre leur empreinte digitale, on leur montre qu'est-ce que l'on étudie pour pouvoir comparer une empreinte digitale avec une autre. Et de manière très très visuelle, ils comprennent que les mesures de similarité entre les empreintes digitales, c'est pas si compliqué à appréhender lorsque l'on montre comment fonctionne la machine. Pareil pour la reconnaissance faciale, on leur donne un peu l'intuition de qu'est-ce que la machine utilise pour pouvoir différencier un visage d'un autre visage.
Merci beaucoup Emmanuel, bonne journée.
Eh bien, merci à vous.
Et si les chercheurs ont animé de nombreux ateliers, comme vous avez pu l'entendre à l'instant, ils n'étaient pas les seuls à se prêter au jeu de la vulgarisation. En effet, des étudiants et leurs associations étaient également là pour présenter leur discipline auprès des scolaires. C'est notamment le cas de Thomas, membre de la Corposcience.
Donc là, aujourd'hui, on a décidé de parler des sciences principalement cette journée-là aux lycéens qui viennent nous voir, parce qu'on a pas mal de secondes et quelques terminales. Donner l'envie aux sciences, on propose de faire quelques travaux pratiques devant eux, mais très simples. C'est-à-dire, par exemple, en chimie, on a un TP de colorimétrie, de titrage colorimétrique. Donc c'est quelque chose de très visuel, de très simple. Après, les explications derrière sont un peu plus complexes, donc on essaye de faire au plus simple, même si ça reste basique. parce que bah, les élèves sont très jeunes, surtout si c'est des secondes. On en a également un avec un ressort pour parler des ondes, un autre où on extrait de l'ADN de banane, et un petit épée d'informatique aussi.
Et on remercie encore Thomas, étudiant, membre de la Corpo Sciences, pour ses réponses.
Parmi les disciplines scientifiques difficiles à vulgariser, on compte les mathématiques. Nombre d'entre nous sont encore traumatisés par tous ces théorèmes et formules qui paraissent souvent abstraites.
C'est pourquoi le laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme était présent pour permettre de vulgariser les maths et mettre à disposition ces outils pédagogiques, outils dont se servent volontiers les professeurs de mathématiques en collège et lycée.
On vous propose d'écouter Emmanuel Féo de la Croix, chercheur au laboratoire Nicolas Oresme.
Vous représentez donc le laboratoire de mathématiques, c'est ça ?
Oui, laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme, qui regroupe tous les chercheurs en mathématiques de l'Université de Caen.
Et là, en cette fête de la science, vous tenez un stand. Quel est l'objet de ce stand ?
Alors, l'objectif, c'est de présenter les mathématiques de façon ludique et concrète, à base de manipulations sur les thèmes de la symétrie, sur les thèmes des pavages, sur d'autres thèmes. Bon, là, pour les scolaires, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur le thème de la symétrie, parce qu'en plus, ça fait des séquences pédagogiques qui peuvent se rejoindre les programmes qui sont faits en classe.
Comment est-ce que, justement, vous arrivez à rendre ce contenu ludique, pédagogique, pour une matière, les mathématiques, qui, on va pas se mentir, est parfois très, très abstraite? Comment est-ce qu'on arrive à captiver, à motiver des élèves qui viennent devant votre atelier?
Alors là, ben justement, c'est de réussir à montrer un petit peu ce qu'il y a derrière cette abstraction. Alors, la géométrie, c'est un thème qui facilite les choses, puisque c'est quand même visuel. Ça peut être rendu très ludique avec des petits jeux, finalement. Des petits jeux à l'aide de miroirs, à l'aide de pièces. On fabrique très facilement des petites sortes d'énigmes pour lesquels il faut avoir quelques connaissances de géométrie pour pouvoir les résoudre. Et ça, bah, ça plaît, ça captive, ça intéresse.
Oui, vous sentez justement qu'il y a un regain d'intérêt de la part des élèves, peut-être que vous n'auriez pas soupçonné, ou au contraire, vous vous dites « bah oui, je m'attendais à ce que ça plaise, ce genre de choses ».
Oui, bah dès le départ, on sait que ça plaît, ce genre de choses, et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ces activités. Mais au fil des années, nous, ça fait quand même déjà plus de 10 ans qu'on propose des activités sur ce thème, ben, on a réussi à développer des choses qui plaisent en fonction des réactions des élèves aussi. Il y a des choses qu'on a abandonnées, des choses qu'on a plus développées. Ça, c'est l'expérience de l'animation scientifique.
C'est aussi une occasion de présenter un peu votre travail qui parfois peut sembler abstrait, on sait pas tout, des fois dans le monde de la recherche on sait pas trop ce qui est fait. Le fait aussi de pouvoir mettre en avant ce que vous faites dans votre laboratoire.
Oui, c'est aussi une occasion. Alors ça vient plus à l'objet de discussion, parce qu'il est difficile de présenter la recherche en mathématiques actuelle à base d'objets de vulgarisation concrets. On est un petit peu trop éloigné en recherche actuelle de ce qu'on peut présenter à un public qui n'a aucun bagage mathématique suffisant. Mais c'est toujours l'occasion d'expliquer ce qu'on fait en recherche en maths, même si on ne fait pas des activités directement sur ces thèmes-là.
Est-ce qu'il y a des professeurs de mathématiques qui sont passés devant votre stand, qui se sont dit, qui ont peut-être puisé des éventuelles nouvelles façons de travailler en voyant ce que vous avez pu proposer, qui se sont dit, ah tiens, ça c'est une bonne idée, je peux peut-être revoir mon approche?
J'en ai un à côté de moi.
Ah.
Alors, moi je suis enseignant au collège de Villers-des-Mézerets à Caen, mais je travaille également pour l'IRM de Caen, l'Institut de Recherche en Enseignement des Mathématiques, et moi je travaille beaucoup avec les jeux et la manipulation. Donc j'utilise des outils fabriqués par ma collègue du laboratoire Nicolas Oresme, notamment les outils qu'on appelle la bosaïque, et en classe je les utilise. Ce sont des petits jeux de miroirs, des pavages, des choses comme ça. Et puis moi j'utilise beaucoup d'objets à manipuler à travers des énigmes de mathématiques et des jeux. Moi, je travaille dans un groupe qui s'appelle le groupe Toucher les maths, qui est un jeu où on manipule, on fait des puzzles, on découpe, on plie. Et je travaille aussi pour un groupe qui s'appelle Rallye mathématiques dynamiques et virtuelles. Et là, on invente des énigmes de mathématiques pour pouvoir intéresser les élèves. Les élèves adorent résoudre des énigmes et on les attrape un petit peu comme ça. Et je travaille avec un collègue qui s'appelle Olivier Longuet, qui lui travaille pour un groupe qui s'appelle Jeux de maths. Si vous tapez jeux de maths sur internet, J2M, vous allez trouver plein de jeux mathématiques qu'on peut faire en classe, en équipe. Et ce groupe jeux de maths fait un travail formidable. Et je pense que par rapport à votre question tout à l'heure, ça amène une autre image des mathématiques et du plaisir à faire des mathématiques.
Et vous sentez même que les élèves progressent plus facilement avec ce genre d'approche ?
Ah oui, je trouve qu'à partir du moment où on prend du plaisir à faire quelque chose, on apprend mieux. Ça, c'est prouvé. Hein. Et puis, alors, l'aspect manipulé, quand on manipule, quand on bouge avec ses mains, quand on plie, on comprend mieux la structure des maths et des choses. Hein. Donc, ça apporte vraiment énormément.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Et les professeurs, justement, ils étaient nombreux à être présents à cette journée. C'était le cas notamment de Monsieur Sava, professeur de technologie au collège Jacques Monod de Caen, qui, outre l'aspect vulgarisation scientifique, a également tenu à souligner l'intérêt d'un tel événement dans l'orientation professionnelle de ses élèves.
Mais là, il voit déjà l'université, il voit d'autres élèves, d'autres classes, ils s'intéressent à l'ingénierie aussi. Et surtout, ils ont vu dans un atelier très important la place de la femme dans la science, qui est intéressant.
Et la façon dont sont amenées les connaissances dans ce genre d'événement, c'est quelque chose que vous, en tant que prof, vous pouvez puiser pour derrière changer peut-être votre approche pédagogique ?
Surtout pour l'orientation. Donc j'ai des classes de 3e aussi, pour qu'ils sachent ce qu'ils vont en faire après. Surtout pour l'ingénierie, pour l'informatique. Ils ont une idée un peu floue. Mais là, en même temps, ils voient des ingénieurs, des vrais. Hein. Donc ils peuvent leur parler pour leur poser des questions.
Un événement comme ça vaut presque autant qu'un salon de l'orientation ou ce genre de choses dans lequel parfois vous pouvez emmener vos élèves.
C'est la première visite, moi. J'ai jamais vu ça. Mais c'est très intéressant. Donc on va s'appuyer sur ça pour le montrer qu'il y a plusieurs choses à envisager pour l'avenir, hein, pour leur orientation. Donc on a des choses de concret.
Et pour terminer cette revue du Village des Sciences, quoi de mieux que de donner la parole aux principales cibles de cet événement, les scolaires? Qu'ont-ils fait durant cette journée?
Alors on a déjà fait les roches. Comment déterminer quelle roche est dedans une roche?
On a fait la pollution dans l'air. Et après,
on a vu aussi les robots intelligents pour transporter des personnes dans des hôpitaux, pour les guider, donc pour la sécurité des personnes.
Ça a été également l'occasion pour eux d'apprendre de nouvelles choses.
Qu'il y avait très peu de femmes qui étaient dans les métiers de la science et que c'était surtout des hommes et qu'elles étaient pas très connues alors qu'en vrai elles ont fait plein de choses bien.
Alors au premier atelier on avait appris les microplastiques dans la mer et tout ça, que on mange tous du plastique parce que les poissons par exemple ils mangent, les microplastiques sont dégradés dans la mer et tout ça, du coup on a tous du plastique dans nos corps. On a appris aussi des choses sur les bactéries, les antibiotiques, ils attaquent les bactéries mauvaises pour nous, mais que suivant l'ADN, les bactéries peuvent fabriquer une résistance contre des antibiotiques.
Mais une journée comme celle-là, c'est aussi une approche pédagogique différente. Qu'est-ce qui change pour eux entre être en cours et venir au Village des Sciences? Est-ce que ça bouscule leurs habitudes?
Est-ce que vous appreniez mieux finalement?
Oui, parce qu'on travaille pas comme ça en cours, parce qu'on n'a pas vraiment d'activité comme celle-là.
Oui, c'est bien parce qu'en fait, c'est représenté sous la forme de jeu, et puis les personnes aussi, elles expliquent bien et tout, qu'en cours, c'est un petit peu ennuyant des fois.
Bah oui, du coup, ça nous fait, plus voir vraiment les choses, vraiment concret, enfin, alors qu'au lieu de nous dire des belles paroles, genre oui, il faut ramasser ça et tout, là, on peut le faire vraiment, enfin, ça nous explique vraiment bien pourquoi il faut le faire et tout ça.
Moi, je trouve en vrai, c'est à peu près la même chose, parce que de toute façon, on apprend des choses, donc... C'est bien.
C'est plus intéressant car il y a plus de choses à apprendre. Au collège, on fait surtout sur papier. Là, on a des appareils, on a des profs qui s'y connaissent mieux dans le domaine, plus répartis.
Et c'est des choses qu'on n'a jamais vues ou que là on découvre et que on voit d'autres techniques différentes. Et du coup, là, c'est vraiment bien. On apprend vraiment autre chose.
Il y a même du matériel adéquat fait pour les expériences spéciales.
Oui, parce qu'à l'école, on fait surtout des choses classiques qu'on apprend de base. Là, on est plus dans certains domaines, la science, les pierres, les minéraux et la pollution, des choses plus réparties, plus complètes et moins générales.
Là, on s'amuse plus qu'en cours, mais il faut les deux, parce que sinon, on ferait n'importe quoi dans les autres cours.
Et on remercie beaucoup Maëline, Lilou, Corentin, Lana, Leila, Marie, Mathis, Lilian, Arthur et Ethan des collèges Notre-Dame de Thuré-Harcourt et Jacques Monod de Caen. On leur souhaite plein de réussite pour la suite.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Le 29 et 30 octobre, des dinosaures robotisés jusqu'à 6 mètres de haut, des bacs de fouilles, des quiz pour les enfants et des casques de réalité virtuelle, vous pourrez sortir en famille pour devenir l'espace d'une journée de vrais paléontologues. C'est de samedi à dimanche 29 et 30 octobre au Parc Expo de Caen de 10h à 18h. Comme chaque semaine, une recommandation reportage. Si vous voulez d'ailleurs en apprendre plus sur les dinosaures avant votre sortie au Parc Expo, on vous recommande le reportage de France 5 jeudi 27 octobre à 21h au temps des dinosaures. Les fossiles redécouverts par les chercheurs ces 20 dernières années ont considérablement changé la perception de l'évolution des dinosaures, focus sur trois espèces différentes, un jeune Deinocheirus, une maman Mosasaur, prédatrice des mers, et un troudon qui vivait en Arctique. Au temps des dinosaures, c'est jeudi soir à 21h sur France 5. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur Phoenix FM. Merci à Victor qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous retrouvez Chloé pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.